la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lirai » un nouvel extrait de « Walden » de Henry David Thoreau, récit publié en 1847 aux États-Unis, ici dans une traduction de Jacques Mayos pour les éditions Gallmeister. On poursuit le chapitre « Visiteur ». Quelle surprise ce matin que de recevoir en mon logis la visite d'un homme authentiquement homérique ou paphlagonien, porteur d'un nom si congruent et poétique que j'ai bien peur de ne pouvoir l'écrire ici. Un Canadien, bûcheron et fabricant de poteaux capable de planter 50 poteaux en un seul jour, qui fit son dernier dîner d'une marmotte attrapée par son chien. Lui aussi avait entendu parler d'Homère, et il aimait à dire que s'il n'y avait pas les livres, il ne saurait que faire les jours de pluie, même s'il n'en a peut-être pas lu un seul jusqu'à la dernière page depuis de nombreuses saisons humides. Dans sa paroisse natale, un prêtre qui savait le grec ancien lui avait appris à lire ses versets dans le Testament. Et aujourd'hui, il me demande de lui traduire, tandis qu'il tient le livre, le reproche qu'Achille fait à Patrocle au sujet de son air triste. « Pourquoi pleures-tu comme une jeune fille, Patrocle ? Où serais-tu le seul à avoir des nouvelles de Phtia ? On dit que Ménétios, fils d'Hector, vit encore, et que Pélée, fils d'Éaque, vit en l'île de Myrmidon. Quelle douleur cela serait pour nous si l'un d'eux était mort. » Il dit, c'est bon. Il tient sous le bras un gros fagot d'écorce de chêne blanc glané ce dimanche matin qu'il va porter à un malade. « Je suppose qu'il n'y a pas de mal à m'occuper d'une telle chose aujourd'hui, » dit-il. Pour lui, Homère était un grand écrivain, bien qu'il ne sût pas vraiment de quoi il retournait dans ses écrits. On peinerait à trouver homme plus simple et plus naturel. Le vice et la maladie qui jettent une ombre morale si noire sur le monde semblaient à peine exister à ses yeux. Il avait environ 28 ans, avait quitté le Canada et la ferme de son père une douzaine d'années auparavant pour venir travailler aux États-Unis et gagner de l'argent dans l'espoir de s'acheter une ferme, un jour, peut-être dans son pays natal. Il était né du plus fruste des moules, corps robuste mais mou, au port pourtant gracieux, cou épais brûlé par le soleil, cheveux sombres et broussailleux, yeux bleus ternes et endormis, dans lesquels montait occasionnellement un éclat d'expression. Il portait une casquette de toile plate de couleur grise, un pardessus écru miteux et des bottes en peau de vache. Il était grand consommateur de viande et emportait d'ordinaire son déjeuner sur son lieu de travail à 2 miles de chez moi, car il coupait du bois tout au long de l'été, dans un seau en fer blanc. C'était de la viande froide, le plus souvent de la marmotte, et du café dans une gourde de grès qui pendait à sa ceinture au bout d'une cordelette. Parfois, il m'offrait à boire. Il passait tôt, traversait mon champ de haricots sans cependant trahir le genre de hâte ou de presse d'arriver au travail que les Yankees exhibent. Il n'était pas en chemin pour se faire du mal. Ça ne le dérangeait pas de gagner juste de quoi manger. Souvent, il laissait son repas dans les buissons quand son chien avait attrapé une marmotte sur le trajet. Il faisait alors demi-tour et marchait 1 mile et demi pour dépecer sa proie et la ranger dans le cellier de la maison dans laquelle il vivait, après s'être demandé pendant une demi-heure s'il n'y aurait pas moyen de la garder au frais en l'immergeant dans l'eau de l'étang jusqu'à la nuit, car il adorait réfléchir à ce genre de questions. Il me disait, en passant le matin, « Eh ben, il y en a des pigeons. Si mon métier ne me faisait pas travailler chaque jour que Dieu nous fait, je pourrais avoir toute la viande que je veux rien qu'en chassant. Pigeons, marmottes, lapins, perdrix, bon sang. Un seul jour me suffirait pour amasser de quoi tenir une semaine. » C'était un bûcheron talentueux, et il s'autorisait quelques fantaisies et ornements dans la pratique de son art. Il coupait les arbres bien à l'horizontale et près du sol pour que les futurs rejets soient plus vigoureux et pour qu'un traîneau puisse passer sur la souche. Et au lieu de laisser un arbre entier pour maintenir ses stères de bois, il l'élaguait et l'affinait jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'un poteau ou piquet élancé qu'il était ensuite possible de briser à main nue. Il m'intéressait parce qu'il était très secret et très solitaire et qu'il s'en trouvait heureux. Il avait en lui un puits de bonne humeur et de satisfaction qui débordait et s'épanchait par la commissure de ses yeux. Il était d'une gaieté sans mélange. Il m'arrivait de le voir au travail dans les bois, à abattre des arbres. Il m'accueillait alors d'un rire de contentement indicible et m'adressait un salut en français canadien, bien qu'il parlât aussi l'anglais. Lorsque je m'approchais de lui, il s'interrompait dans sa tâche, et avec un enjouement à moitié réprimé, il s'allongeait sur le tronc d'un pin qu'il avait abattu, puis, pelant l'écorce interne, il en faisait des boules qu'il mâchait en me parlant sans jamais cesser de rire. Il était habité d'esprits animaux si vifs que lorsque quelque chose éveillait sa curiosité, il lui arrivait de rire si fort qu'il en dégringolait de son tronc pour se rouler par terre. Regardant les arbres autour de lui, il s'écriait « Bon sang de bonsoir, qu'est-ce que je m'amuse ici, à abattre des arbres ? Je n'ai vraiment besoin d'aucune autre distraction. » Parfois, lorsqu'il s'offrait un peu de temps libre, il se distrayait toute la journée, marchant dans la forêt en faisant tonner, de proche en proche, avec son pistolet de poche, des tirs de salut à lui-même. L'hiver, il faisait un feu, sur lequel il réchauffait son café du midi, et tandis qu'il déjeunait assis sur une bûche, les mésanges venaient parfois volter autour de lui, se poser sur son bras, picorer la pomme de terre qu'il tenait dans sa main. Il disait qu'il aimait avoir tous ses petits copains autour de lui. En lui, c'était surtout l'homme animal qui s'était développé. En matière d'endurance physique et de contentement, il était cousin du pin et du roc. Un jour, je lui ai demandé s'il lui arrivait d'être fatigué le soir, après une longue journée de travail. Il m'a répondu avec un air sincère et sérieux « Ah, saperlotte, j'ai jamais été fatigué de toute ma vie. » Mais l'intellectuel, et ce que l'on appelle l'homme spirituel en lui, demeurait aussi endormi que chez le nourrisson. Pour toute éducation, il n'avait reçu que cette forme d'instruction innocente et oiseuse que les prêtres catholiques prodiguent aux indigènes, par laquelle l'élève n'est jamais élevé jusqu'à s'ouvrir à la conscience, mais seulement jusqu'à être digne de confiance et capable de déférence, et par laquelle l'enfant n'est pas fait homme mais maintenu enfant. Lorsque la nature l'a façonné, elle lui a donné un corps robuste et la capacité d'être heureux de ce qu'il a. Elle lui a permis de se tenir debout en l'équipant de toutes parts de béquilles, de déférence et de confiance, afin qu'il pût passer ses 70 ans de vie en restant un enfant. Il était si authentique et sans apprêt qu'aucune présentation ne pouvait le présenter, pas plus que vous ne pourriez présenter une marmotte à votre voisin. Votre voisin devait le découvrir comme vous l'aviez découvert vous-même. Il ne jouait aucun rôle. Des hommes le payaient pour son travail et aidaient ainsi à le nourrir et le vêtir, mais il n'échangeait jamais d'opinion avec eux. Il était si simplement et si naturellement humble, si l'on peut juger humble l'homme qui n'aspire à rien, que l'humilité n'était même plus une qualité distincte en lui, et ce n'était certainement pas une qualité qu'il eût pu concevoir. Il considérait les hommes plus sages que lui comme des demi-dieux. Si vous lui disiez qu'un tel homme allait venir, il se comportait comme s'il pensait qu'un être aussi grandiose ne saurait rien attendre de lui, et que cet être prendrait les choses en main et le laissant, lui, oublié et tranquille. Il n'entendait jamais la voix de l'éloge. Il révérait tout particulièrement les écrivains et les prédicateurs. Leurs accomplissements étaient tous des miracles. Lorsque je lui dis que j'écrivais beaucoup, il pensa longtemps qu'il s'agissait seulement de lignes d'écriture, car il était lui-même remarquablement habile en matière de calligraphie. Je voyais parfois le nom de sa paroisse natale élégamment tracé dans la neige, au bord de la route, avec l'accent français correct, et je savais alors qu'il était passé là. Un jour, je lui ai demandé s'il n'avait pas envie d'écrire ses pensées. Il m'a répondu qu'il lui était arrivé de lire et d'écrire des lettres pour des gens qui en étaient incapables, mais qu'il n'avait jamais essayé d'écrire des pensées. Non, vraiment non, il ne savait pas du tout par quoi commencer, et ça le tuerait. Sans compter qu'il fallait en même temps faire constamment attention à l'orthographe. J'ai entendu dire qu'un savant réformiste distingué lui avait demandé s'il ne souhaitait pas que le monde change. Il lâcha un petit rire de surprise et il lui répondit avec son accent canadien, ignorant que la question eût jamais été étudiée, « Non, il me plaît bien comme ça. » Le fréquenter eût pu grandement nourrir les réflexions d'un philosophe. Pour l'inconnu qui le rencontrait, il paraissait ne rien savoir des choses en général. Et pourtant, j'ai parfois vu en lui un homme que je n'avais jamais vu auparavant et je ne savais pas s'il était aussi sage que Shakespeare ou simplement aussi ignorant qu'un enfant. Je ne savais pas si je devais le soupçonner de posséder une belle conscience poétique ou bien d'être stupide. Un concitoyen m'a dit que lorsqu'il le voyait passer dans le village, de son pas enlevé et joyeux, sa casquette bien vissée sur le chef, sifflotant pour lui-même, il lui faisait penser à un prince déguisé. Les seuls livres qu'il possédait étaient un almanach et un manuel d'arithmétique, spécialité en laquelle il était fort expert. L'almanach lui faisait office d'encyclopédie. Il le présumait contenir un abrégé de toutes les connaissances humaines, ce qui, dans une large mesure, était effectivement le cas. J'adorais le questionner sur les diverses réformes du jour, et il ne manquait jamais de les aborder sous l'angle le plus simple et le plus pragmatique. C'était toujours la première fois qu'il entendait parler de ces choses. Pourrait-il vivre sans les usines ? Lui demandai-je. Il me répondit que son grand manteau fait maison lui convenait fort bien. Pourrait-il se passer de thé et de café ? Notre pays offrait-il d'autres breuvages que l'eau ? Il faisait infuser des aiguilles de pin et jugeait cette décoction meilleure que l'eau par tant de forte chaleur. Lorsque je lui demandais s'il pourrait se passer d'argent, il m'expliqua l'utilité pratique de la chose d'une manière qui rappelait, ou eût pu égaler, les analyses les plus philosophiques de l'origine de cette institution, allant jusqu'à intégrer la dérivation du latin pecunia. S'il possédait un bœuf et qu'il désirait acheter des aiguilles et du fil au magasin, il jugeait qu'il serait mal commode et en fait impossible d'aller chaque fois hypothéquer pour cela telle ou telle portion de sa bête. Il savait défendre de nombreuses institutions mieux que n'importe quel philosophe, parce qu'en les décrivant, sous l'angle du rapport qu'elles entretenaient avec lui, il révélait leur véritable raison d'être sans qu'aucune supputation ne lui en eût fait entrevoir une quelconque autre. Un autre jour, apprenant que Platon avait défini l'homme comme un bipède sans plumes, et que quelqu'un s'était alors amusé à parader avec un coq plumé en l'appelant « l'homme de Platon », il me fit remarquer que les genoux ne se pliaient pas dans le même sens chez le coq et chez l'homme, et que c'était là, à son sens, une différence importante. Il s'exclamait parfois « Ah ça, j'adore parler. Bon sang, je pourrais parler toute la journée. » Un jour, le rencontrant après avoir passé plusieurs mois sans le croiser, je lui demandai s'il avait eu une quelconque nouvelle idée dans le courant de l'été. « Mon Dieu, me répondit-il, si un homme qui travaille comme je travaille n'oublie pas ses idées, il aura bien de la chance. Peut-être que l'homme avec qui vous sarclez votre parcelle a un penchant pour la course. Dans ce cas, bon sang, vous avez besoin de tout votre esprit. Vous pensez aux mauvaises herbes et à rien d'autre. » Dans ce genre d'occasion, il me demandait parfois en premier si j'avais procédé à quelque nouvel aménagement. Un jour d'hiver, je lui demandai s'il était toujours satisfait de lui, dans l'idée de lui faire percevoir l'existence, à l'intérieur de lui, d'un substitut du prêtre qui se trouvait à l'extérieur, ainsi que la possibilité d'une raison de vivre plus noble. « Satisfait, dit-il. Certains hommes se satisfont d'une chose, d'autres d'une autre chose. Bon Dieu, un homme qui aurait ce qu'il lui faut pourrait peut-être se trouver satisfait de passer toute sa journée assis le dos à la cheminée et le ventre contre la table. » Pourtant, en dépit de toutes mes ruses, je ne parvins jamais à lui faire voir la vie sous l'angle du spirituel. Les choses les plus nobles qu'il parvenait à concevoir relevaient toujours du domaine pratique le plus simple, le genre de choses dont on imagine qu'un animal serait capable de les concevoir. Et, dans la pratique, cette attitude se retrouve chez la plupart des hommes. Lorsque je lui suggérais telle ou telle amélioration possible de son mode de vie, il se contentait de me répondre, sans exprimer le moindre regret, que c'était trop tard. Pourtant, il croyait profondément à l'honnêteté et aux autres vertus du même genre. On percevait en lui une certaine originalité positive, aussi subtile fut-elle, et il m'arriva de constater qu'il pensait par lui-même et exprimait sa propre opinion, phénomène tellement rare que je serais prêt à faire 10 miles à pied n'importe quel jour pour avoir la chance de l'observer. Et cette opinion se résumait à un rappel des origines de nombreuses institutions de notre société. Bien qu'il hésitât, et parfois échouât, à s'exprimer distinctement, il avait toujours une idée présentable derrière la tête. Mais sa pensée était si primitive et si noyée dans la vie animale que, bien qu'elle fût plus prometteuse que celle d'un homme simplement érudit, elle parvenait rarement à mûrir jusqu'à donner naissance à quoi que ce fût de notable. Il donnait à penser qu'il existait des hommes de génie dans les classes les plus basses, aussi définitivement humbles et illettrés que ces hommes puissent être, des hommes qui ont toujours leur propre vision des choses, ou qui ne font pas semblant de voir quoi que ce soit lorsqu'ils ne voient rien. Des hommes qui, bien que sombres et boueux, sont aussi infiniment profonds que l'étang de Walden était réputé l'être. C'était un fragment de Walden de Henry David Thoreau dans la traduction de Jacques Mayos. pour les éditions Gallmeister.
If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love for sorrow, save my love for lonely. I've given you my tomorrow, love me only. If I work my hands in wood, would you still love me? You answer me quick, Tim, I could. How could you above me? If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blocks, soft shoes shining? Save my love for loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, given me your tomorrow. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Could you have my baby?